Chapitre 4. Nous avons dit qu'Octave avait mis son armée au service de la République et que le Sénat, qui eût dû lui demander de quel droit il avait une armée, l'avait, par des félicitations publiques, remercié de son dévouement et l'avait envoyé à la tête de cette armée secourir Décimus Brutus, c'est-à-dire l'assassin de César, contre Antoine, son ami et son héritier. Antoine avait quitté Rome pour aller mettre le siège devant Modène, ou plutôt s'était sauvé de Rome. Quelle cause avait inspiré cette grande terreur à Antoine ? Un songe. Les songes jouaient un rôle énorme dans la vie romaine. Antoine avait rêvé que la foudre était tombée sur lui et l'avait blessé à la main droite. Or, la foudre, c'était Octave, cet enfant protégé de Jupiter. Octave accepta la mission de protéger contre Antoine l'assassin de César. Octave voulait le pouvoir à tout prix. Peu lui importaient les moyens et la route qui y conduisait. Cependant, comme nous l'avons dit encore, la République lui adjoignit deux honnêtes républicains, consuls de l'année et nommés l'un Hirtius et l'autre Pansa. Octave, arrivé en face d'Antoine, lui livra deux combats, dont le premier, s'il faut en croire Antoine, il eut si grand peur que pendant deux jours on ne sut ce qu'il était devenu et qu'il ne reparut que le troisième, sans cheval et sans armure. Il est vrai qu'il se conduisit tout autrement dans le second. Le porte-enseigne de sa légion ayant été blessé, il prit son aigle et la porta sur son épaule jusqu'à ce que la journée fût décidée en sa faveur. Mais la journée coûta cher. On perdit 3 ou 4 000 hommes, plus les deux consuls. L'un périt dans le combat, l'autre de ses blessures. Alors le bruit se répandit qu'Octave était coupable de leur mort. Selon Aquilius Niger, Octave aurait tué lui-même Hirtius dans la mêlée et corrompu par lui, Glycon, médecin de Pansa, aurait empoisonné ses blessures. Octave avait si grand intérêt à cette double mort que peut-être l'accusa-t-on à tort d'en être l'auteur. En effet, Hirtius et Pansa morts, nul ne contrôlait plus ses actions et il pouvait agir comme bon lui semblait. Or, il agit d'une singulière façon, d'une façon qui prouvera que c'était Brutus qui l'avait bien jugé et non pas Cicéron. Antoine, battu, prit la fuite, se dirigeant vers les Alpes afin de se joindre à Lépidus. Mais la course était longue et la route difficile. Par bonheur, Antoine, tant qu'il ne fut point perdu par l'amour énervant de Cléopâtre, fut un de ces hommes que l'adversité grandit, que le malheur exalte. Lui, accoutumé depuis longtemps à une vie de luxe et de délices, reprit ses habitudes de soldat, buvant de l'eau corrompue aux ornières des chemins, se nourrissant de racines et de fruits sauvages, et en arrivant à son passage des Alpes, à cette extrémité, de manger des écorces d'arbres pour ne pas mourir de faim. Ce fut ainsi qu'avec les débris de son armée, il parvint au camp de Lépidus. Mais en voyant cette malheureuse troupe à demi nue et tombant d'inanition, Lépidus comprit que c'était la guerre, avec toutes ses chances douteuses, qu'Antoine lui apportait. Antoine résolut d'aller à Lépidus, puisque Lépidus ne venait point à lui. Il prit une robe de deuil et, les cheveux négligés, la barbe longue, il a laissé croître depuis sa défaite, il s'achemina vers le camp de Lépidus. Lépidus avait pu faire fermer les portes de son camp, mais il n'avait pu empêcher ses soldats de monter sur les retranchements. À la vue d'Antoine, ses vétérans qu'il avait suivis dans ses campagnes d'Asie, qui avaient combattu sous lui à Pharsale pour César, le saluèrent de leurs cris et de leurs gestes. Antoine voulut parler, mais Lépidus ordonna de sonner les trompettes pour que leur bruit couvrît celui de sa voix. Antoine fut donc forcé de se retirer sans avoir pu se faire entendre, mais pendant la nuit qui suivit cette tentative infructueuse, il vit entrer sous sa tente deux femmes voilées portant le costume de courtisane. Ces deux femmes, arrivées devant lui, se dévoilèrent et Antoine reconnut deux de ses anciens lieutenants, Lélius et Clodius. Il lui était envoyé par les soldats pour lui dire d'attaquer sans crainte le camp de Lépidus, la plupart d'entre eux étant décidés à la recevoir et même à tuer Lépidus s'il croyait ce meurtre utile à sa sûreté. Antoine n'était ni cruel ni vindicatif lorsqu'il n'était point poussé à la cruauté ou à la vengeance par Fulvie. Il ne voulut point permettre qu'on touchât à Lépidus, mais le lendemain, profitant de la vise, il se mit à la tête de ses soldats et, sondant la rivière qui séparait le camp de l'Épidule du sien, il s'élança à l'eau le premier et gagna l'autre rive, encouragé par les soldats de l'Épiduse qui lui tendaient les bras et qui arrachaient les palissades. En entrant dans le camp, Antoine était maître de toute l'armée. Mais ce triomphe, qui lui donnait la mesure de sa popularité parmi les soldats, ne l'enorgueillit point. Il traita l'Épidus, à qui on n'avait pas même laissé la liberté de fuir, avec une grande douceur, l'appelant son père et lui laissant le titre d'impérator et les honneurs du commandement. Cette conduite généreuse porta ses fruits. Minatius Plancus, qui campait près de là avec un corps assez considérable de troupes, vint se joindre à Antoine, qui se trouva à la tête non seulement des débris de son ancienne armée, mais de l'armée de l'Épidus et des soldats de Minatius Plancus. Il repassa donc les Alpes et rentra en Italie à la tête de 17 légions et de 10 000 cavaliers, laissant en Gaule 6 légions sous les ordres d'un certain Varus, son compagnon de débauche et son rival d'orgie, qu'il appelait Cotylon, du mot grec Cotyle. Pour ceux qui ignoreraient ce détail et qui ne comprendraient pas la valeur du sobriquet, nous dirons que Cotyle était le nom d'une mesure de vin qui pouvait correspondre à celle d'un double litre. C'était donc comme si, pour une idée de sa capacité, il eût appelé Varus double litre. Rome ignorait ce qui se passait dans les Gaules. Cicéron, encouragé par l'absence d'Antoine et par les lettres de Brutus, déclara que Rome n'avait plus besoin de cet enfant que l'on appelait Octave et poussa le Sénat à lui refuser le consulat. Mais tout à coup, on apprit à Rome une effrayante nouvelle, c'est qu'Octave venait de traiter avec Antoine et Lépidus et que tous trois, à quelques lieues de Bologne, dans une petite île du Rhénan, se partageaient le monde et dressaient des listes de proscription. C'était vrai. Deux ponts avaient été construits sur le fleuve pour arriver jusqu'à l'île. Antoine devait arriver par la rive gauche, Octave par la rive droite. Chacun avait 5 légions qu'il laissa à distance. 800 hommes gardaient chaque tête du pont. L'Épidus avait été chargé par Antoine et Octave de fouiller l'île, de peur que l'un ou l'autre y eût caché des assassins. Il devait, visite faite, donner le signal d'entrée. Octave et Antoine se fouillèrent réciproquement. Touchante confiance. Ces précautions prises, ils s'assirent autour d'une table et se partagèrent le monde. Ce fut là une de ces scènes que le pinceau ne saurait rendre, que la plume ne saurait retracer. Shakespeare, le grand maître, l'a ébauché, mais voilà tout. Il craignit de s'y laisser prendre, comme à une de ces machines que l'on veut diriger, et qui, au lieu de vous obéir, se saisissent de vous et vous brisent. La séance dura 3 jours. Le premier jour fut donné au partage du monde, les 2 autres aux proscriptions. Antoine se fit la part du lion. Il eut toutes les provinces de l'Orient, l'Asie jusqu'au pont, la Judée jusqu'à l'Égypte. L'Épidus eut l'Afrique. Octave, l'Europe. Or, qu'était-ce que l'Europe à cette époque-là? L'Italie ruinée par 4 guerres, les Gaules épuisés par César, l'Espagne révoltée, la Sicile aux mains de Sextus qui couvrait la Méditerranée de pirates. Sans doute Octave eut une intuition, non pas de ce qu'était l'Europe, mais de ce qu'elle pouvait devenir en des mains habiles. Ce partage fait, les proscriptions commencèrent. Sur le terrain, chacun se fit des concessions. Les droits du sang et de l'amitié furent sacrifiés au profit de la haine. Tous d'ailleurs avaient des exigences. Antoine voulait la tête de Cicéron. Octave voulait celle de Lucius César, oncle maternel d'Antoine. Antoine et Octave voulaient celle de Paulus, frère de Lépidus. Sur le reste, il n'y eut pas de discussion. On proscrivit 300 sénateurs et 2 000 chevaliers. Pour chaque tête de proscrit, on donnait à l'homme libre qui la livrait 25 000 drachmes. À l'esclave, 10 000 et la liberté. Puis les soldats intervinrent à leur tour. Ils désirèrent que la chose finît comme un vaudeville moderne, par un mariage. Octave dut épouser la belle-fille d'Antoine, fiancée à un autre. C'était Claudia, fille de Claudius. Vous vous rappelez notre Claudius, le Claudius de César, celui que Cicéron appelle le Mignon et qui fut tué à Milo. C'était Claudia, disons-nous, la fille de Claudius et de Fulvie. Pendant ce temps, Rome reprenait courage. Il lui était rentré 2 légions. Le Sénat, qui avait commencé de faire des concessions, les retira, fit réparer les fortifications de Rome, déclara qu'il se défendrait jusqu'à la dernière extrémité. Tout à coup, on apprend que les triumvirs marchent sur Rome. C'était le titre qu'avaient pris Octave, Antoine et Lépidus. Grande terreur. Le Sénat décrète qu'on ira au devant d'Octave et qu'on implorera sa clémence. La députation était sur le point de partir lorsque le bruit se répand que 2 légions d'Octave l'ont abandonné. À cette nouvelle, le Sénat se rassemble, s'exhorte, s'exalte, s'enthousiasme. Cicéron harangue, parle de république, de liberté. Un sénateur annonce alors que la nouvelle qui a causé toute cette joie est fausse, que loin que 2 légions d'Octave l'aient quittée, ce sont les 2 légions de Rome dont la foi est douteuse. À ces mots, la terreur est plus grande que jamais, le Sénat se disperse, chacun fuit de son côté. Cicéron monte dans sa litière et se fait bien vite emporter hors de Rome, à sa campagne de Tusculum, où Quintus, son frère, l'attendait. Si donc vous voulez voir combien le pauvre Cicéron est misérable dans toute cette affaire, lisez Appien, Guerre civile, livre 3. Seulement, vous aurez du mal à vous le procurer, je vous en préviens. Les triumvirs entrèrent dans Rome sans résistance aucune. Dion dit qu'ils y entrèrent en déclarant qu'ils n'imiteraient ni les massacres de Sylla, ni la clémence de César, ne voulant être ni haïs comme le premier, ni méprisés comme le second. César méprisé pour sa clémence. Comme cela peint d'un trait la société antique. Il n'y avait pas de danger qu'Octave fût méprisé pour la sienne. Les autres, dit Suétone, se laissèrent quelquefois fléchir par des amis ou des prières. Lui fut toujours d'avis de ne faire grâce à personne. Au reste, les triumvirs proclamaient une chose rassurante, c'est que le sang qu'ils allaient verser, ils ne le verseraient que pour satisfaire le soldat, qui ne tuerait pas tous leurs ennemis, mais un petit nombre seulement, et des plus méchants. Enfin, promesse était faite que la richesse ne serait pas un crime. Puis venait la défense de sauver les proscrits, la récompense à donner aux meurtriers et l'engagement pris de taire leur nom. Sage précaution contre les réactions futures. Appien donne tout entière cette curieuse proclamation. Elle mentait d'un bout à l'autre. Les proscriptions furent terribles et eurent principalement pour cause la richesse des proscrits. Que voulez-vous ? Il fallait de l'argent aux triumvirs, il fallait de l'argent aux soldats. À Antoine surtout, il n'avait déjà plus un denier des 30 millions qu'il s'était fait livrer aux Ides de Mars par Calpurnie, la veuve de César. C'est qu'aussi il avait eu une singulière idée, une idée qui ne pouvait passer que par la tête d'un fantaisiste comme l'était Antoine. Il avait payé ses dettes, non pas toutes, mais une partie. Du mois de mars au mois d'avril, 40 millions de sesterces, 10 millions de notre monnaie à peu près. Il est vrai que Cicéron, dans sa deuxième philippique, l'accuse d'avoir pris au trésor public 700 millions de sesterces, à peu près 140 millions de francs. Supposez que les 2 autres n'en exigèrent à eux 2 qu'autant qu'Antoine en avait eu à lui tout seul, et voyez, le trésor public étant à sec, combien il fallait tuer de citoyens pour arriver à satisfaire Octave et Lépidus, sans compter l'armée, qui avait bien aussi ses exigences. Un soldat vint sans façon demander à Octave de lui abandonner la succession de sa propre mère. Verrès, qui revenait à Rome après 24 ans d'exil, fut proscrit pour avoir refusé de donner à Antoine 2 vases de bronze, reste de son butin de Sicile. Un homme fut tué pour une opale. Velleius Paterculus dit, sur les proscriptions, un mot terrible. Il y eut beaucoup de fidélité chez les femmes, assez dans les affranchis, quelque peu dans les esclaves, aucune dans les fils. Tant l'espoir de l'héritage, une fois conçu, il est difficile d'attendre. Toranius, poursuivi et atteint par les massacreurs, se réclame de son fils, ami d'Antoine. « Mais, lui répondirent les assassins, c'est ton fils qui t'a dénoncé. » Un prêteur était en train de solliciter les suffrages pour son fils. Il apprend que son nom est sur la liste des proscriptions et se sauve chez un client. Son fils y conduit les assassins. Il est vrai qu'il reste à la porte, tandis que les meurtriers tuent son père. Un jeune homme allait prendre la robe prétexte et se rendait au temple avec un nombreux cortège d'amis. Dans le trajet, le bruit se répand qu'il est proscrit. Le cortège aussitôt se disperse. Le jeune homme gagne une des portes de Rome et fuit dans la campagne. Il avait voulu se réfugier chez sa mère, qui lui avait fermé sa porte. À une lieue de Rome, il est pris par des gens, qu'on nous permette de nous servir d'un mot tout moderne, par des gens qui pressaient des esclaves pour les faire travailler à la terre. Il croit d'abord que c'est un moyen de salut et ne réclame pas. Mais au bout de quelques jours, il trouve la condition trop dure et lui-même rapporte sa tête au proscripteur. Un enfant allait aux écoles avec son précepteur. L'enfant était proscrit. Le précepteur se fit tuer en le défendant, ce qui n'empêcha point l'enfant d'être tué à son tour. Un prêteur arrête un centurion qui poursuivait un homme.
« Cet homme est donc proscrit ?» lui demande-t-il.
Le centurion le regarde. « Oui, et toi aussi, » lui dit-il. Et il le tue. Nous avons dit qu'Antoine avait abandonné son oncle, que Lépiduse avait sacrifié son père, qu'Octave avait fait semblant de défendre Cicéron. Lucius César, l'oncle d'Antoine, se voyant poursuivi, se réfugia chez sa sœur. Les meurtriers y arrivèrent presque en même temps que lui et voulurent entrer de force dans la chambre où Lucius était enfermé. Mais sa sœur se tint sur la porte, les bras tendus, et criant
« Vous ne tuerez point mon frère, qu'auparavant vous ne m'ayez égorgé, moi, la mère de votre général. »
Pendant ce temps, Lucius fuyait par une porte de derrière et échappait à la mort. Paulus, frère de Lépiduse, parvint aussi à s'échapper et à la rejoindre Brutus et Cassius. Un fils prit son père proscrit sur ses épaules et l'emporta, aux applaudissements du peuple, non seulement à travers Rome, mais jusqu'à la mer. Les assassins eux-mêmes respectèrent cette piété filiale. Cet homme s'appelait Oppius. Plus tard, Oppius devint édile. Les ouvriers de Rome, qui se rappelaient son courage et sa piété au jour des proscriptions, travaillèrent gratis aux préparatifs des jeux qu'il donna, et tous les pauvres y voulurent contribuer. De même qu'Antoine avait fait proscrire Verrès, qui n'avait pas voulu lui vendre les deux vases, Fulvie avait fait proscrire un homme qui n'avait pas voulu lui vendre sa maison. On apporte la tête à Antoine, qui l'examine avant de payer l'assassin. « Je ne connais pas cela, dit-il. Porte cette tête à ma femme, ce doit être pour son compte. » En effet, Fulvie la reconnut, et, de peur que l'on ignorât la cause de sa mort, ordonna que la tête du proscrit fût clouée au-dessus de la porte de sa maison. Nous avons dit qu'Octave était le seul des triumvirs qui ne pardonna point. Non seulement il ne pardonna point, mais s'il faut en croire Suétone, il se fit plus d'une fois justice lui-même. Le prêteur Quintus Gallus, venant lui faire sa cour, eut le malheur de tenir des tablettes cachées sous sa robe. Octave crut que c'était une épée, le fit arrêter et appliquer à la question. Puis, comme malgré la question, Quintus Gallus n'avouait rien, n'ayant rien à avouer, il se jeta sur lui, pris d'une rage insensée, lui arracha les yeux et le condamna à mort. Il est vrai que, voyant le malheureux innocent, Octave se contenta de l'exiler. Octave raconte lui-même que, ramené en prison et ensuite exilé, il périt dans un naufrage ou par les mains des brigands. Ce fut dans une de ces séances où Octave siégeait lui-même que Mécène, lassé de voir qu'il ne se lassait point, écrivit sur une page de ses tablettes « Te lèveras-tu, bourreau ?» et la lui jeta. Octave ramassa le billet, le lut et se leva sans rien dire. Plus tard, nous parlerons de Mécène. Mais cette admonestation de Mécène n'avait guéri Octave que pour cette fois-là. Un autre jour, qu'il passait une revue et haranguait les soldats, ayant vu un chevalier nommé Pinarius qui prenait des notes sur ses tablettes, il cria « Cet homme est un espion, qu'on le tue !» Et Pinarius fut tué. Un autre jour, le consul Tedius Affaire, s'étant permis de jeter un blâme sur quelques-unes des actions d'Octave, celui-ci lui fit faire de si terribles menaces que Tedius Affaire se suicida. Une fois cependant, contre son habitude, il pardonna. De concert avec la femme d'un proscrit, son ami, sa sœur Octavie fit cacher dans un coffre un malheureux condamné à mort et fit porter ce coffre au théâtre. Lorsqu'Octave fut assis, la femme, tout en pleurs, ouvrit le coffre et en appela au peuple de la condamnation des triumvirs.
Le peuple eut pitié et fit grâce. Il fallut bien alors qu'Octave fît grâce comme le peuple. Pendant ce temps, Antoine s'était replongé dans sa vie d'orgie et de débauche. C'était à table ou au lit qu'il donnait ses ordres de meurtre et de pillage. Mais ce que les Romains lui reprochaient par-dessus toute chose, ce n'était point d'égorger les sénateurs et les chevaliers. Les sénateurs étaient méprisés et les chevaliers étaient haïs. Ce que les Romains lui reprochaient par-dessus tout, c'était de s'être emparé de la maison du grand Pompée et d'avoir converti cette maison en un bouge de mimes, de bouffons et de courtisanes où venait se fondre l'argent qu'il enlevait aux proscrits, à leurs veuves et à leurs enfants, et même celui que les citoyens avaient mis en dépôt entre les mains des Vestales. Quant à Lépidus, sa nullité s'effaçait entre l'insolence d'Antoine et la cruauté d'Octave. Mais s'il n'était pas le plus haï, il était le plus méprisé. Que devenait Cicéron pendant ce temps ?